Et le grand thème depuis des âges, la Bible parle beaucoup de la gloire de Dieu, c'est la raison pour laquelle la création a eu lieu, alors que les cieux déclarent la gloire de Dieu et que l'humanité a été faite pour sa gloire. Nous sommes créés pour sa gloire. Le psaume 19 nous déclare, dans la beauté sublime d'une poésie, les cieux racontent la gloire de Dieu, et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le grand plan de la rédemption est tout à la gloire de Dieu. En théologie, le but ultime de ce point final est que tout était et est pour la gloire de Dieu. Tout c'est pour la gloire de Dieu et tout est pour la gloire de Dieu. Le salut de l'humanité, aussi grand que soit-il, devient secondaire par rapport au fait primordial de la gloire de Dieu. Dieu existe toujours. Il existe éternellement. Et donc, la gloire de Dieu, si Dieu existe éternellement, la gloire de Dieu aussi existe éternellement. Gloire est un mot qui, bien que souvent utilisé, beaucoup trouvent difficile à définir sans utiliser le mot dans la définition. Et dans le langue grecque, premièrement dans la langue hébreu, le mot gloire vient du mot kabod, K-A-B-O-D, kabod. Ce que ça veut dire, c'est une racine qui est lourde, quelque chose qui pèse. Et dans le grec, dans la langue grecque, c'est le doxa. Mais finalement, c'est les deux choses signifient la même chose. C'est quelque chose qui, une estimation, une évaluation, une estimation, c'est ça qu'il signifie. Même si le mot est utilisé dans les hymnes, souvent nous utilisons dans la prière, et se trouve sous diverses formes, près de 400 fois dans les Écritures. Le mot gloire est utilisé plus de 400 fois dans l'Écriture. Il reste difficile à décrire. Les croyants ont généralement une idée générale de la signification, mais n'ont pas de définition précise. C'est probablement parce que nous n'utilisons pas et ne pouvons pas utiliser les bons paramètres de comparaison. Et quand nous utilisons le mot gloire, mais nous utilisons avec nos langues humaines. Donc comment on peut comparer le mot gloire qui appartient uniquement à Dieu? Parce que si on peut utiliser le mot gloire à notre niveau, la gloire ça veut dire ce qu'il veut dire. Souvent nous pensons à des choses matérielles de ce monde. La parole de langage humain, c'est limite à la connaissance humaine. Et sans dire que notre connaissance de notre Dieu de gloire est très limitée, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et donc, nous ne pouvons même pas comprendre ce qui est vraiment la gloire de Dieu. Les êtres humains, ils ne peuvent pas voir la gloire de Dieu dans son entièreté. Et donc, cela s'applique à chaque être humain sans exception. Et personne peut comprendre vraiment qu'est-ce que ça veut dire la gloire de Dieu. La Bible nous dit que Dieu est jaloux de sa gloire. La Bible nous dit que Dieu est jaloux de sa gloire. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Isaïe 42, 8. Dieu est appelé le Dieu de gloire. Le psaume 29, verset 1 à 3, je vais lire pour vous. Fils de Dieu, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. La voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre. L'Éternel est sur le grand eau. Et dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 7, verset 2, Étienne, il répondit aux foules avant de son lapidation, « Homme frère, et père, écoutez, le Dieu de gloire apparut à notre père Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie. Et cette formule est utilisée avec chaque membre de la Trinité. Donc, on va voir comment ça s'applique à chaque membre de la Trinité. Dans l'Éphésiens chapitre 1, verset 17, c'est marqué, c'est le Père de la gloire. Le Père de la gloire. En 1 Corinthiens chapitre 2, verset 8, et Jacques chapitre 2, verset 1, glorieux Seigneur Jésus-Christ, qui parle de, en parlant de Fils, glorieux Seigneur Jésus-Christ. Et dans 1 Pierre 4, verset 14, si vous êtes outragé par le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Donc, nous voyons la Trinité, comment est attribuée avec ce mot « gloire ». Hein, le Père de la gloire, glorieux Seigneur Jésus-Christ, et l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Et si nous allons regarder ensemble le psaume 27, versets 7 à 10, on voit comment le Seigneur il est décrit ici. Psaume 27, versets 7 à 10. Porte, élevez-vous, linteau, élevez-vous, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Porte, élevez-vous, linteau, élevez-le, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire, l'Éternel des armées, voilà le roi de gloire. Donc ici le Seigneur, il est adressé comme roi de gloire. Il y a quatre références au roi de gloire dans ce passage que nous avons lu. Dans l'Ancien Testament, la gloire transmet la pensée de la splendeur, de la beauté, ou de quelqu'un ou de quelque chose qui est grandiose dans sa splendeur. Mais en tout cas, quand nous appliquons ce mot gloire, ce n'est pas du tout matériel. Ce n'est pas du tout matériel, mais la beauté de... Mais même ça, je ne sais pas comment on peut expliquer. Hein, ou comment nous expliquerons le mot beauté? Parce que personne n'a vu Dieu, ses attributs, et s'est révélé par le Seigneur Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. Mais sinon, c'est difficile à comprendre c'est quoi exactement la gloire de Dieu. Et c'est pourquoi Joseph pouvait parler de la gloire, de sa puissance, de sa position. Je vais lire de Genèse 45, 13. Racontez à mon père, quand Joseph il était déjà en Égypte, hein, il dit à ses frères, allez raconter à mon père toute ma gloire en Égypte, et tout ce que vous avez vu, vous ferez descendre ici, mon père, au plus tôt. Mais ici, Joseph, il est en train de parler de sa gloire, son notoriété, ce qui s'entoure en tant que l'empereur d'Égypte. Donc ici, racontez à mon père toute ma gloire en Égypte. Le psaume 19, verset 1 dit, « Le ciel déclare la gloire de Dieu. L'immensité de celui-ci est une démonstration impressionnante et appropriée de la splendeur de Dieu. » Donc, c'est manifesté. Les enfants d'Israël ont vu la gloire de Dieu dans la nuée. Exode 16, 9 à 10, je vais lire pour vous, on n'a pas beaucoup de temps. Moïse dit à Aaron, dit, à toute l'assemblée d'enfants d'Israël, approchez-vous devant l'Éternel, car il a entendu vos murmures. Et tandis que Aaron parlait à toute l'assemblée des enfants d'Israël, ils se tournèrent du côté du désert, et voici la gloire de l'Éternel parut dans la nuée. Encore, c'est très flou, n'est-ce pas? La gloire de Dieu parut dans la nuée. Peut-être c'est une grande lumière, hein? Alors, je ne sais pas comment c'était, mais en tout cas, le peuple a pu voir la gloire de Dieu dans une façon très comparativement sombre. Et encore sur la montagne, Exode 24, 16, 17, la gloire de l'Éternel reposa sur la montagne de Sinaï, et la nuée le couvrit pendant 6 jours. Le 7e jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée. L'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne aux yeux des enfants d'Israël. Donc ici, c'était un feu dévorant. La gloire de Dieu apparaît comme un feu dévorant. Et encore, en Exode 24, chapitre 40, 34, 35, la gloire de Dieu a été vue remplissant le tabernacle. Alors la nuée couvrit la tente d'assignation, la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente d'assignation parce que la nuée restait dessus et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. Donc, tout ça, c'est pour dire que Dieu, c'est un Dieu de gloire. Et c'est pas une façon pour décrire sa gloire. Et ici, Moïse, il raconte, mais c'est avec le langage humain, la gloire de Dieu. Vous vous souvenez de Isaïe, la vision d'Isaïe, de la gloire de Dieu. Je vais lire vite fait, Esaïe 6, le premier 4 versets. L'année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur assis sur le trône très élevé, et le pan de sa robe remplissait le temple. Les séraphins se tenaient au-dessus de lui. Il avait chacun 6 ailes, deux dont il se couvrait sa face, deux dont il se couvrait les pieds, et deux dont il se servait pour voler. Il criait l'un à l'autre en disant, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait et la maison se remplit de fumée. C'est une vision un peu étrange. Il voit les anges et chacun il avait 6 ailes. Mais une chose qu'on voit ici, c'est remarquable. Avec 2 ailes, il couvrait sur leur visage. Car même les anges ne pouvaient pas voir la gloire de Dieu. L'utilisation par le Nouveau Testament, le mot gloire, comme ayant à voir avec une opinion ou une estimation. L'honneur résultant d'une bonne opinion. Donc, quand nous louons le Seigneur, quand nous disons, nous te glorifions, Seigneur, mais qu'est-ce qu'on est en train de dire? Mais est-ce que c'est simplement le mot, en utilisant le mot gloire, est-ce que ça rapporte quelque chose? Mais est-ce que, le dimanche matin, nous avons eu le visiteur, est-ce que ce visiteur, il peut, bien sûr, il peut chanter avec le mot gloire avec nous, mais est-ce qu'il comprenne le vrai sens de la gloire de Dieu. Mais il faut expérimenter, il faut goûter la gloire de Dieu pour comprendre qu'est-ce que c'est la gloire de Dieu. Et alors, lorsque les croyants rendent gloire à Dieu, ils expriment leur estimation de sa valeur. Mais même là, comment on peut estimer la valeur de notre Dieu, notre Seigneur? On ne peut pas. Parce que on ne connaît pas le Seigneur, le Dieu saint entièrement. On n'a pas vu encore. Même si nous voyons, nous allons découvrir pendant des milliers d'années sa personne. Mais arrêtons-nous ici une seconde. Qui sommes-nous pour évaluer Dieu? Le plus saint et le plus glorieux. Il est au-dessus de tout et tout au-dessus des cieux et sur la terre. Il est le roi des rois et le seigneur des seigneurs, créateur de tout ce qu'on voit et qu'on ne voit pas, du début et de la fin, l'alpha et l'oméga. Avec notre estimation et notre opinion, nous n'allons pas augmenter sa gloire éternelle, et nous ne pouvons pas diminuer sa gloire non plus. Juste parce que je ne chante pas le dimanche matin, je ne chante pas le cantique, je ne vais pas diminuer la gloire de Dieu. Si seulement je ne prononce pas le mot gloire, je ne vais pas diminuer la gloire de Dieu nullement. Même à ces moments les plus bas, à la croix du calvaire, quand il était pendu comme un criminel, il était toujours le Fils de Dieu le plus glorieux. L'état le plus humble, quand il était né dans l'étable, il était le Seigneur le plus glorieux, le Fils de Dieu. Et sur la croix, il était le plus glorieux. Et souvenez-vous ce que le Seigneur il a dit dans Jean 17, versets 1, 4 et 5. « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. » Dieu révélant sa gloire et l'expression de ce à quoi il ressemble, que ce soit par la révélation de sa grandeur dans le psaume, dans la personne de Christ, ou dans toute l'œuvre de la rédemption. Il est utilisé de la nature et des actes de Dieu dans l'auto-manifestation. Dieu, il manifeste lui-même sa gloire. C'est-à-dire ce qu'il est et ce qu'il fait essentiellement, tel qu'il est exposé de quelque manière qu'il se révèle. En utilisant le principe de première mention, le mot gloire se trouve pour la première fois dans le livre de Genèse, chapitre 31, verset 1, décrivant la richesse de Jacob. Vous savez, Jacob, il avait ramassé beaucoup de biens, bétail, tout ce qu'il peut ramasser, hein, quand il a quitté Laban. Et je vais lire ce verset, Genèse 31:1. Jacob entendit les propos du fils de Laban qui disait, Jacob a pris tout ce qui était à notre père, et c'est avec le bien de notre père qu'il s'est acquis toute cette richesse. Ici, dans la version en anglais, le King James, le mot gloire, tandis que il utilise le mot gloire. Mais dans une autre version en anglais, le mot est remplacé par richesse. Par richesse. Cette référence en soi ne transmet pas beaucoup d'informations, mais lorsqu'on la regarde à la lumière de la deuxième mention de la gloire, le mot gloire, le concept devient intriguant. En Genèse chapitre 45, verset 13, il parle de la gloire de Joseph en Égypte. Ainsi, dans ces deux premières références, il y a la gloire du Père et la gloire du Fils. Vous voyez, la gloire du Père, c'est-à-dire Jacob, et après la mention de la mot gloire, c'est la gloire de Joseph. La gloire ou la richesse est venue au Père de droit, parce que Jacob, il a acquis par Abraham, par Isaac, il a acquis cette richesse. Et le Fils a reçu la gloire en vertu de son caractère et de sa conduite. Ici, on parle de Joseph. Joseph, quand il est parti comme un esclave en Égypte, n'est-ce pas? Il était vendu comme un esclave. Et Joseph, par son caractère et par ses attributs, il a obtenu sa gloire en vertu de son caractère et de sa conduite. Le Fils est vu sur le trône, exerçant sa domination sur les nations. Son commandement aux frères est « Racontez à mon Père toute ma gloire en Égypte et tout ce qui vous avez vu. » Vous savez probablement que Joseph sert de type à l'œuvre de Christ. Hein, c'est très intéressant de lire la vie de Joseph. il reflète beaucoup le Seigneur Jésus-Christ dans tout ce qu'il fait. Nous ne pouvons pas être rappelés de Jésus-Christ quand nous étudions la vie de Joseph. Parce qu'il a sauvé son peuple de la destruction, Joseph déjà. Ce sont des pensées riches qui émergent lorsque ces idées sont appliquées au Père et au Fils. Tout comme dans le chapitre 31 de la Genèse, la gloire de ce monde appartient au Père. Il est le conflit continu avec les enfants de ce monde qui veulent cette gloire et la considèrent comme la leur. Nous savons que dans ce monde, les hommes, ils veulent prendre la gloire qui n'appartient pas, qui les appartient pas. Ils veulent prendre la gloire. Mais toute gloire, toute chose, on peut se glorifier, ça vient de où? Ça vient de Dieu. On peut rien créer pour nous glorifier nous-mêmes. Tout vient de Dieu. Genèse chapitre 45, je vais lire à partir de verset 8 jusqu'à 13. « Ce n'est donc pas vous qui m'envoyez ici, mais c'est Dieu. Il m'établit père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. Hâtez-vous de remonter auprès de mon père et vous lui direz, ainsi a parlé ton fils Joseph, Dieu m'établit seigneur de toute l'Égypte, descends vers moi, ne tarde pas. Tu habiteras dans le pays de Goshen et tu seras près de moi, toi, tes fils et des fils de tes fils, tes brebis et tes bœufs, et tout ce qui est à toi. Là, je te nourrirai, car il y aura encore 5 années de famine, et ainsi que tu périras point, toi, ta maison, et tout ce qui est à toi. Vous voyez de vos yeux, et mon frère Benjamin voit de ses yeux que c'est moi qui vous a parlé. Racontez à mon père toute ma gloire en Égypte et tout ce que vous avez vu, et vous ferez descendre ici mon père au plus tôt. » Et on peut bien sûr penser à notre Seigneur Jésus-Christ qui a, par sa vertu de ses attributs, il a acquis sa gloire. Ce passage décrit le fait que le Fils recevra gloire et honneur et que son règne sera glorieux. Le serviteur souffrant qui a travaillé dans l'humilité sera le souverain exalté. Notez ici que le prophète Zacharie a prophétisé. Il bâtira le temple de l'Éternel. Il portera les insignes de la majesté. Il s'assiera et dominera sur son trône. Il sera sacrificateur sur son trône. Et une parfaite union régnera entre l'un et l'autre. Zacharie 6, 13. Ses propres frères s'inclineront devant lui et reconnaîtront sa personne et sa position. Le frère de Joseph, le croyant dans le Deux Testaments, sont appelés à rendre gloire à Dieu, c'est-à-dire à déclarer notre estimation de sa personne et de son œuvre. Donc, notre catéchisme, la vérité fondamentale, la question c'est quelle est la fin principale de l'homme? Quelle est la fin principale de l'homme? C'est quoi la raison de notre existence ici, dans ce monde? La fin principale de l'homme est de glorifier et de jouir de lui pour toujours, éternellement. Glorifier Dieu devient une partie intégrante de l'adoration. L'expression du poids de l'opinion donnée à qui il est et à ce qu'il a fait. Donc, chaque croyant, chaque enfant de Dieu, seul, il peut glorifier Dieu. Une personne qui ne connaît pas Dieu, il ne peut pas le glorifier. Comment une personne qui ne connaît pas ce qui est un diamant, si vous demandez de décrire c'est quoi un diamant, comment il va décrire? Il ne peut rien dire s'il ne connaît pas. Donc, c'est une connaissance de sa personne, une estimation de sa valeur qui est importante. Le psaume 96 dit, La splendeur et la magnificence sont devant sa face. La gloire et la majesté sont dans son sanctuaire. Famille de peuples, des peuples, rendez à l'Éternel gloire et honneur. C'est rendez à l'Éternel la gloire et l'honneur. La gloire et l'honneur l'appartient. Nous pouvons simplement rendre à l'Éternel la gloire et l'honneur. Oh, puisque la gloire de Dieu est l'un des grands thèmes de l'Écriture, nous devrions avoir la même pensée que Moïse et que nous crions avec lui, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Exode 33, 18, nous avons lu. Et David aussi, il a exprimé une pensée similaire dans le psaume 27, verset 4. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. La question à nous poser est, serait-ce le plus grand désir de ma vie? Avant que Moïse ne fasse sa demande, il avait prié, « Maintenant, si je trouvais grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies, alors que je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. » Exode 33, 13. Donc, certes, Moïse, il voulait voir la gloire de Dieu. Mais avant ça, Moïse, on voit son ardent désir. Il demande maintenant, fais-moi connaître tes voies. Un enfant de Dieu qui ne cherche pas la volonté de Dieu, qui demande, fais-moi voir ta gloire. Il a loupé quelque chose, n'est-ce pas? On devrait connaître la volonté de Dieu pour pouvoir contempler la gloire de Dieu. Moïse a trois demandes dans ses conversations avec Dieu, dans cette section de Exode. Dans Exode chapitre 32, verset 32, c'est un appel à pardon. Pardonne maintenant leur péché, parce que les enfants d'Israël, ils ont commis un grand péché, parce que Moïse, il était dans la montagne pour recevoir la tablette, le commandement. Et le peuple, ils se mangeaient, et ils mangeaient, ils buvaient, ils ont fait cette veau d'or, ils se suyaient eux-mêmes. Et donc, Moïse, il demande, il fait un appel au pardon de Dieu. Pardonne maintenant leur péché, sinon, efface-moi de ton livre que tu as écrit. Et quand on vient pour l'adoration, premièrement, nous devrions avoir le pardon de Dieu. Sans le pardon de Dieu, nous ne pouvons même pas entrer dans le temple de Dieu, dans la présence du Seigneur. Pardonne maintenant leur péché, sinon efface-moi de ton livre que tu as écrit. Dans le chapitre 33, verset 15, c'est une demande à la présence de Dieu de les accompagner dans leur voyage. Moïse lui dit, « Si tu ne marches pas toi-même avec nous, nous ne fais point partir d'ici. » Donc, le désir d'avoir la présence de Dieu, le désir le plus élevé, le plus noble, exprimé dans le verset 33, 18, dans la prière pour qu'il sache plus sur la personne de Dieu, Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Donc, c'est une vie, n'est-ce pas? C'est une vie d'un enfant de Dieu qui a ce désir ardent pour voir la gloire de Dieu. Ce n'est pas simplement prononcer le mot gloire, on adore Dieu. C'est une vie sainte devant Dieu. C'est une vie d'obéissance devant Dieu. Tous les croyants savent que ce que d'être pardonné, certains croyants éprouvent la joie de sa présence avec jour après jour. Mais très peu ont l'obsession que Moïse avait, telle qu'exprimée dans la demande de Moïse. Les versets 21-23 dans le chapitre 33 décrivent les détails de la révélation visible de la gloire de Dieu. L'Éternel dit voici un lieu près de moi. Tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'aie passé. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. On voit la grâce de Dieu, mais encore la gloire de Dieu était révélée à Moïse. C'est encore très obscur, n'est-ce pas? Parce que Dieu dit que personne ne peut me voir et vivre. Le Dieu éternel et invisible se fait connaître à son serviteur. C'est alors que Moïse était dans la fente, dans le creux du rocher, qu'il a pu voir l'affichage visible du rayonnement de la personne et de la présence de Dieu. Moïse ne pourrait voir que le dos de Dieu ou l'effet de la disparition de Dieu. Car personne ne peut voir Dieu dans sa plénitude et vivre. La réponse verbale de Dieu à la demande de Moïse a plus à voir avec son rayonnement qu'avec son caractère. Dieu parle de ses attributs et aussi de ses activités envers l'homme. Dieu commence par une déclaration dans le verset 19. « Je ferai passer devant toi toute ma bonté. » Moïse, il demande de voir la gloire de Dieu, mais vous voyez ce que Dieu l'a répondu. « Je ferai passer devant toi toute ma bonté. » Maintenant, regardons ensemble le chapitre 30, mais je vais lire pour vous, hein, on n'a pas beaucoup de temps. Le chapitre 34, versets 5 à 8, « L'Éternel descendit dans une nuée, se tint là auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. L'Éternel passa devant lui et se cria, « L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération. Aussitôt, Moïse s'inclina à terre et se prosterna. » La bonté de Dieu. Au chapitre 34, Dieu commence en proclamant son nom dans le verset 5. Il déclare ensuite son caractère dans le verset 6 à 7. Ce sont des caractéristiques qui rendent le Dieu du ciel unique et qui le distinguent des dieux inventés par l'homme. Et notez les caractéristiques miséricordieux et gracieux, abondant en bonté et en vérité. L'effet pratique de cette expérience et la révélation de gloire de Dieu sont doubles dans la vie de Moïse. Moïse s'hâta donc et s'inclina, inclina la tête vers la terre et adora. Moïse était sans voix, mais dans la crainte et l'humilité, il s'inclina et l'adorait. C'est la réponse de Dieu à un aperçu de la gloire de Dieu. L'aspect humain est vu dans le verset 29 à 35, en ce que le visage de Moïse, le chapitre 34, en ce que le visage de Moïse brillait d'un tel éclat que personne ne pouvait supporter de se tenir devant lui. En fait, Moïse a dû se voiler le visage. La tradition rabbinique dit que cela était vrai pour le reste de sa vie. De l'expérience dans la fente du rocher, le creux du rocher, il était évident pour tous que Moïse avait été en présence même de Dieu, car son visage reflétait la gloire de Dieu. Le commentaire du Nouveau Testament sur cette scène se trouve dans 2 Corinthiens chapitre 3, versets 7 à 18. Si vous pouvez prendre avec moi, on peut lire ensemble. 2 Corinthiens, chapitre 3, versets 7 à 18. « de Corinthiens, chapitre 3, versets 7 à 18. Aussi, le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère. Combien le ministère de l'Esprit ne serait-il pas plus glorieux? Si le ministère de la condamnation était glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. Et sous ce rapport, ce qui était glorieux ne l'a point été à cause de cette gloire qui lui est supérieure. En effet, si ce qui était passager a été glorieux, ce qui est permanent est bien plus glorieux. Ici, l'apôtre Paul, il parle de la loi. Ayant donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté. Et nous ne faisons pas comme Moïse, qui mettait un voile sur son visage, pour que les fils d'Israël ne fixassent pas les regards sur la fin de ceux qui étaient passagers. Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament, et ils ne se lèvent pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Verset 16, « Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons, comme dans un miroir, la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en l'image en la même image de la gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. » Et maintenant, cette phrase, nous contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Le miroir est bien comparé à la parole de Dieu. Il y avait une merveilleuse démonstration de la gloire sur le mont Sinaï quand Dieu a donné la loi. Cela a été étendu au rayonnement qui brillait du visage de Moïse. En fait, cet affichage était lié à l'ensemble du ministère glorieux de la loi. Paul explique que le voile couvrait le visage de Moïse parce que l'éclat s'est estompé avec le temps. C'était une exposition temporaire, mais le voile cachait ce fait aux enfants d'Israël. Ils n'ont pas vu que leur gloire s'estompait, soulignant l'adoption de la loi et la plus grande gloire associée au ministère de l'Esprit à cette époque. La gloire que le croyant voit aujourd'hui vient de la vision du Fils de Dieu dans la parole de Dieu. La gloire que le croyant voit aujourd'hui vient de la vision du Fils de Dieu dans la parole de Dieu. Notre fonte du rocher, le creux du rocher où Moïse était placé, pour voir la gloire de Dieu. Notre fonte du rocher est le temps passé dans la lecture de la parole de Dieu. Si nous désirons voir la gloire de Dieu, nous devrions être cachés dans la fonte du rocher qui est la parole de Dieu. L'Esprit de Dieu prend alors les pensées de Christ et les applique à l'enfant de Dieu, ce qui entraîne une transformation à l'image de Christ. De plus en plus qu'on lit la parole, nous sommes transformés à l'image de Christ. C'est Christ Jésus dans la parole de Dieu. Nous devrions chercher Jésus-Christ dans chaque livre, dans chaque page de la parole de Dieu. C'est un processus qui se déroule progressivement d'un degré de gloire à l'autre. Pour nous, la gloire de Christ est plus qu'un reflet. Au contraire, il rayonne de l'intérieur et peut ensuite être vu par le monde. Se concentrer sur la gloire de Dieu affectera à la fois notre adoration de Dieu et notre témoignage au monde. Être conscient de la grandeur de Dieu produit l'émerveillement et l'adoration. Être conscient de la grandeur de Dieu produit l'émerveillement et l'adoration. Quand nous venons pour adorer le Seigneur, est-ce que nous sommes émerveillés? C'est-à-dire, chaque dimanche, nous devrions être émerveillés. Ou de temps en temps, nous sommes émerveillés par « Ah, je n'ai pas vu dans la parole ce fait. » Mais nous devrions venir avec les émerveillements. Imaginez, vous êtes, on vous bande les yeux, on vous amène devant la plus grande chute du monde, à Niagara, et on enlève la bande. Hein. Comment vous seriez? En émerveillement, en complet émerveillement. Est-ce que nous sommes émerveillés quand nous sommes en adoration? Être conscient de la grandeur de Dieu produit l'émerveillement et l'adoration. La crainte et l'émerveillement sont la base du culte. Et bien qu'il ne manque pas de merveilles, il y a un sérieux manque d'émerveillement dans la vie des chrétiens et par conséquent un déclin de l'accent sur l'adoration. Maintenant, le mot adoration, ça veut dire adoration. Les gens, ils font ce qu'ils ont envie de faire. Ils sont même pas en train d'adorer le Seigneur. Ils font ce qu'ils veulent. Ils appellent ça adoration. Et le mot gloire est utilisé bien souvent, mais sans la connaissance, qu'est-ce que c'est la gloire de Dieu? Notre témoignage au monde est directement lié à notre vie dévotionnelle privée. C'est à partir du temps passé dans la fente du rocher, le creux du rocher, que les individus se transforment à l'image de Christ. Sa gloire est alors vue chaque jour dans notre caractère, notre conversation et notre conduite. Donc, Moïse, il avait envie de voir la gloire de Dieu. Dieu l'a dit, il a trouvé une fente dans le rocher, une creux dans le rocher. Il a dit que tu restes ici pour voir ma gloire. Et nous avons la parole de Dieu aujourd'hui. Si nous voulons voir la gloire de Dieu, il est... Mais on ne peut pas voir plus que la parole nous peut montrer. Hein, le Fils de Dieu, dans sa gloire, on trouve dans la parole de Dieu. Que le Seigneur nous aide à contempler la gloire de Dieu de plus en plus dans notre vie, en adoration. Prions. Seigneur notre Dieu de gloire, Seigneur, combien nous sommes faibles dans notre connaissance de toi. Seigneur, pour comprendre des choses qui t'appartiennent. Seigneur, mais tu as révélé pour nous, Seigneur, dans ton Fils, Jésus-Christ. Seigneur, quand il est né dans ce monde, il était caché dans le corps humain. Le Seigneur de gloire qui est venu dans la forme humaine, Seigneur, comme un humble enfant, est caché. Seigneur, mais tu as vécu une vie sainte sur cette terre afin pour mourir sur la croix. Seigneur, tout ce qui était autour de toi, ils ont pu voir ta gloire. Seigneur, quand tu es ressuscité, tes disciples, ils ont pu voir ta gloire. Seigneur, même maintenant, en tant que tes disciples, Seigneur, nous te prions que tu nous montres ta gloire. Aide-nous à contempler ta gloire. Seigneur, allez en progresser dans notre marche avec toi, pour être prêt avec toi, près de toi. Seigneur, Seigneur, que le monde il voit la réflexion de ta gloire en nous. Quand nous sortons, quand nous partons dans ce monde. Seigneur, Merci parce que tu nous as donné ta parole. Seigneur, tu ne nous as pas nous laisser comme des orphelins. Tu as donné ta parole vivante qui parle, qui nous édifie, qui nous fait vivre dans ce monde. Et tu as donné ton Esprit Saint aussi pour nous aider, pour comprendre ta personne. Nous te rendons la gloire qui t'appartient. Seigneur, toi seul es digne de notre louange et notre adoration. Seigneur, nous te glorifions. Nous prosternons devant toi. Nous sommes des humbles créatures. Seigneur, mais tu nous as fait tes enfants pour ta gloire, puisqu'on peut te glorifier éternellement, jusqu'à la fin de éternellement. Au nom de notre Seigneur, notre Sauveur Jésus-Christ, nous prions et pour ta seule gloire. Amen.